salut à tous, j'espère que vous allez bien de l'autre côté du poste et que vos oreilles sont prêtes pour une nouvelle balade artistique. Ici Juliette, cette semaine je vous emmène pour une deuxième émission signée Art Racaille et présentée par votre servitrice pour Radio Bigaille. J'en profite pour vous rappeler le principe de nos rendez-vous du mercredi. Alors on a soit, comme la semaine dernière, une émission faite maison et concernant la vie culturelle d'ici, et ça s'appelle L'art au passage. La semaine dernière, on a parlé d'imprimerie. On est allé à Rochefort visiter les petites allées. Et aujourd'hui, donc c'est l'autre formule, en association avec Radio Soupente, nous proposons une rediffusion de Art Racaille, l'émission réalisée par nos amis franciliens Piquecou et Robert. Et pour cette fois, nos amis sont allés découvrir l'œuvre du graveur Charles Doncker à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée en ce moment. Ce n'est pas dans les environs de Marennes, hélas, c'est là-haut à la capitale, mais grâce à la magie de la radio, nous allons pouvoir profiter de la visite en audiodiffusion. Et ça, c'est merveilleux. Donc, pas de panique, on va peut-être vous parler par moment d'événements qui sont obsolètes, mais c'est pas grave, on a quand même la possibilité de découvrir tout ça ensemble. Alors, je vous retrouve de toute façon en fin d'émission pour vous parler d'une autre actualité locale. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute à tous. C'est parti!
Et vous êtes toujours, enfin on l'espère, sur Radio Soupente, la station des rapins 100 fois 100 ouest sans courbette, qui diffuse l'émission Art Racaille, et nous voici plongés bientôt, tout de suite et sans attendre, dans la partie artistique de cette émission concernant un graveur fantastique, enfin de notre point de vue en tout cas, Charles Doncker, un néerlandais qui doit pointer vers les 80 balais aujourd'hui, quoi, quelque chose comme ça, mais toujours très allant et toujours très travailleur.
Ouais, Charles Doncker, effectivement, une belle découverte, cette fondation Custodia qui a vraiment un fond graphique magnifique. Quoi.
Ouais. Ouais.
Donc quelqu'un à côté de qui on était passé quand on avait fait l'exposition Peindre sur le motif, et en retournant sur le site, je dis quand même, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu voir son boulot. J'étais assez subjuguée par les reproductions de gravures qu'il y avait. Donc Charles Doncker, bah, il est né effectivement 80 ans, il est né en 40 à Utrecht, et c'est le quatrième enfant d'une famille catholique libérale. Mais bon. Et ses deux parents travaillaient pour les chemins de fer néerlandais, donc il n'était pas du tout destiné à faire de la gravure, quoi. Et en fait, il s'est formé, donc il a quoi, une petite vingtaine d'années, il se forme aux techniques graphiques, il a des professeurs. Alors nous, on n'est pas très performants dans les professeurs néerlandais. Il y en a un qui s'appelle Lou Strick, et qui est graphiste d'Utrecht, justement. Et Doncker déclare un jour dans une interview, justement, qu'il avait 17 ans quand il a rencontré ce graphiste, et dit « ça a été pour moi un grand stimulateur, un grand moteur de mon développement ». Et il lui a dit, c'est pas qu'il lui a dit quoi faire, mais il lui a appris à regarder, il lui a dit, il l'a emmené aussi chez des amis, donc ça l'a ouvert en fait à cette culture graphique, il rencontrait plein de personnes, enfin voilà, donc c'était important pour lui. Et ensuite il a travaillé, il a fait une formation
aux
Beaux-Arts, il a été dans les peintures murales, la mosaïque, et là il a commencé justement à recevoir des commandes de décoration murale. Mais en fait, apparemment, il ne reste plus rien de son œuvre monumentale. Il a été formé au monumental et on n'a pas de traces. Après, il est devenu membre de deux associations d'artistes à Utrecht, une société de peinture et de dessin et une société graphique qui voulait promouvoir effectivement la production et la vente d'art graphique. Et lui, c'était un membre plutôt actif qui a participé à pas mal d'expositions collectives. Il va voyager, en fait. Il va aussi voyager en 65, donc il a 25 ans. Il commence à voyager un petit peu en France. Il a fait aussi un séjour à la Maison Jaune à Mur. C'est une maison-atelier qui était gérée par la Fondation Van Gogh. Et là, il a fait des dessins et des gouaches. Alors donc, il voyage beaucoup en Provence, en Ardèche. Et il va obtenir une bourse. Donc ça lui permet, je crois que c'est 8000 florins. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond à l'époque.
Beaucoup.
Mais ça va lui permettre de pouvoir se consacrer à son travail artistique, au dessin et à la gravure. En 1970, donc il a 30 ans, il achète une maison forestière, c'est à la sortie d'Utrecht, et près de la forteresse de Rinjonwen. Alors moi, je pense que je prononce très très mal tous ces noms néerlandais. Et là, ça va lui faire un prétexte de travail supplémentaire. Il va également faire des illustrations de livres aux éditions de l'Harmonie. Il va y avoir une exposition personnelle qui lui est consacrée à Utrecht, toujours. Et tandis qu'il est régulièrement montré à Amsterdam, c'est la Galerie Petit, il y a aussi une exposition à l'Institut néerlandais de Paris qui lui est consacrée. Après, il va continuer à voyager. Il fait des voyages avec un groupe qui s'appelle Artists for Nature. Et là, il va aller un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, on verra, il y a des gravures dans cette exposition hein, qui viennent notamment, je me souviens de gravures qui sont de Pologne aussi. Et la Fondation Custodia va acheter certaines de ses œuvres en grand nombre, ainsi que le Rijksmuseum donc, à Amsterdam. Bon, il va être décoré, nous on s'en fiche un petit peu, on n'aime pas trop les décorations, quoi. Mais on travaille donc à l'eau forte, il fait des fois des laquatintes, et on va parler un peu de tout son boulot.
Bah, il fait aussi la taille d'épargne.
La taille d'épargne, ça on a vu, après sur ce site, il y a un catalogue raisonné de son travail sur un site néerlandais qui est absolument très complet, où on détaille vraiment sa biographie, tout son travail, sauf que c'est tout écrit en néerlandais, donc il faut passer par un traducteur, c'est jamais
parfait. Non mais les néerlandais, c'est un tout petit pays, il n'y a que qui parle néerlandais, hein. Dans le monde, personne ne parle néerlandais, mais en Hollande, tout le monde parle néerlandais, bien sûr.
Ouais. Donc il a des expositions, donc cette exposition à la Fondation Custodia, et il avait été exposé aussi à une galerie à Paris qui s'appelle la galerie Document 15, qui possède donc une partie de son travail. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu comme un des plus grands graveurs hollandais.
Bon, bah, moi je dirais un des plus grands graveurs qui existent sur cette planète. Ah non, non, parce que quand même, c'est énorme. Non, c'est dommage que pour ceux qui ne pourront pas voir cette exposition, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il y a un petit film sur le net qui est à l'exposition aussi, et ma camarade, toujours très 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 active, et qui aime bien vous faciliter la vie, vous mettra les liens pour aller voir cette petite vidéo. Et que j'ai regardé moi de bout en bout et deux fois de suite parce que ma camarade est venue me rejoindre devant cette vidéo alors que moi j'avais terminé de la regarder, donc je l'ai vu une deuxième fois avec plaisir. D'ailleurs j'aurais pu l'avoir une troisième fois, où on voit ce petit bonhomme voilà, avec sa bicyclette qui part voilà régulièrement dans la nature et alors on en parlera pas.
Si tu peux raconter, non,
et qui se pose, quand il a choisi un lieu, un paysage qui lui plaît, il a un petit pliant pour s'asseoir, et il sort d'une petite sacoche, tout est petit chez lui, une petite sacoche, il sort une plaque de cuivre préparée pour la gravure, à la pointe sèche, et directement comme un peintre ou un dessinateur le ferait devant un paysage, il se met à graver le paysage qu'il a devant lui. Non, mais c'est hallucinant, parce que il n'y a pas de retouche possible, hein. Il est avec sa pointe sèche, il a un petit truc, un petit tacsutoir pour en refaire la pointe, et voilà, il se met à bosser sur sa plaque de cuivre, évidemment préparée pour la gravure, évidemment, avec un enduit dessus, puis il noircit au noir de fumée, voilà, pour qu'il voit la trace brillante de son travail. Non mais c'est... Moi j'étais fasciné, parce que quand vous êtes devant une plaque de cuivre, hein, déjà dans un atelier, bon, moi j'avais un copain, hélas aujourd'hui disparu, qui était un graveur professionnel, il fallait le voir bosser dans son atelier, lui faire préparer ses plaques, graver, etc. C'est un travail très très méticuleux. On n'imagine pas, j'aurais jamais imaginé avant de voir ce petit film qu'un graveur pouvait aller directement dans la nature, s'asseoir devant un motif et graver comme un peintre peint ou comme un dessinateur dessine.
Et alors tu expliques, parce qu'on le voit qu'il prépare sa plaque justement.
Oui, pour les gens qui connaissent la gravure, c'est pas la peine d'écouter, mais pour ceux qui ne savent pas, vous avez une plaque de cuivre dessus, il faut qu'ils mettent, si vous voulez, bon, je vais vous imaginer ça, mais c'est pas forcément un problème, parce qu'il dit pas tout quand même, il dit des choses, mais enfin il y a un petit secret professionnel qu'il divulgue pas. Il enduit sa plaque de cuivre après l'avoir bien poli, etc., parce que pour pas qu'il y ait de crocs et de bosses, il enduit avec un espèce d'apprêt qui passe au noir de fumée, et c'est cet apprêt qui doit traverser avec sa pointe sèche pour toucher le cuivre. Parce qu'après avoir fait ce travail de gravure dans l'enduit qui est étalé sur la plaque de cuivre, il va la passer dans un bain d'acide, comme l'apprêt est enlevé par la pointe sèche, dans ces endroits-là, l'acide va rentrer et va creuser la plaque de cuivre. Et donc, une fois que tout ça, ça sera nettoyé, il pourra l'ancrer, on le voit ancré d'ailleurs, et imprimé avec une grosse presse à bras, qui est très belle d'ailleurs, avec des bras avec du bois, etc. Enfin bon, les Néerlandais, hein, c'est des gens très très méticuleux. Et voilà, il fait une presse, enfin, pour une impression, et c'est magnifique, quoi. On a les résultats. Il y a 150, plusieurs dizaines de gravures. À la Fondation Custodia, voilà, c'est quelque chose. Vous verriez la délicatesse, la finesse du travail. Et quand on pense que pour une bonne partie de ces gravures, il les a faites sur le motif, bon, alors là, on peut que rester la bouche ouverte à tous les vents, enfin, aux quatre vents de l'histoire, et les vents mauvais surtout, parce que c'est invraisemblable.
Ouais, parce que c'est-à-dire qu'il n'a pas de reprise, quoi.
Non, c'est de, à la prima, mais avec une pointe sèche. Non, c'est dingo.
Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul, ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Voilà, sacré géranium, dit Canegarn. Donc oui, pour continuer à parler du travail de Charles Doncker, donc il crée principalement sur le motif, hein, comme tu l'as bien expliqué. Et d'ailleurs, il dit « je ne sais pas être ailleurs que dehors hein. ». Il a besoin de voir le ciel, d'entendre le bruissement des arbres, de regarder les oiseaux voler, de ressentir le silence absolu de la nature Et il dit, je serais affreusement malheureux si je ne pouvais plus sortir. Donc il a effectivement, comme tu disais, il a voyagé en Angleterre, en Espagne, en Pologne, en Amérique du Sud, en Israël, aux Pays-Bas. Et à partir de cette maison de forestier, comme il prend son vélo et il va donc capter cette nature. Donc on peut parler de nous, ce qu'on a vu dans cette exposition, de ces paysages qui sont absolument sidérants de beauté. Donc il y a beaucoup d'arbres.
Non mais attends, à propos de son atelier, il a deux lieux. Il a un lieu en ville et il a un lieu dans la nature. Et ce lieu dans la nature, cette maison forestière dont tu parles, c'est la ville de
Utrecht
qui lui a trouvé, parce qu'il avait demandé, si tu veux, à la ville d'Utrecht, s'il ne pouvait pas avoir un lieu dans la nature, etc., un autre endroit que son atelier en ville, et la ville ne lui a pas répondu pendant des années. Puis un jour, il y a un fonctionnaire qui est arrivé, qui lui a dit, ça y est, on a trouvé une maison. Et alors, cette maison forestière, elle est fabuleuse, mais pour lui, il ne peut pas y travailler l'été, puisqu'il y a des grands chênes devant la maison qui lui bouchent la lumière, donc il ne travaille que l'hiver, voilà, parce qu'il n'y a plus de feuilles aux arbres. Mais c'est, vous verriez la maison, c'est une vieille maison, vous voyez, avec des comme il y a dans les maisons à colombages, quoi, voilà, c'est quelque chose. Je sais pas s'il doit être chaud, mais encore, non, il doit être avec une couverture plus solide, mais enfin, voilà, c'est un peu genre.
Ouais. Et justement, en parlant, ces arbres, on a vu beaucoup de représentations d'arbres et lui, il pense que l'arbre, donc ça peut être un sujet unique d'une estampe, hein, puisqu'il sait tout à fait les représenter. Par contre, il dit que l'arbre doit d'abord avoir perdu ses feuilles, parce qu'il dit en gravure, il est très difficile de représenter un arbre feuillu. Et en même temps, il précise qu'il ne peut pas dessiner d'après son imagination, donc il a besoin vraiment de voir son sujet. Mmh. Et quand il grave un arbre, il faut vraiment qu'il le regarde. Comme de la même manière pour les oiseaux, c'est très compliqué pour lui de faire un oiseau en vol, parce qu'il y a trop de détails, ça bouge trop. Donc c'est comme ça, je crois, qu'il s'est mis à graver des oiseaux morts.
Oui, alors qu'il avait horreur, ça lui était jamais venu à l'idée de travailler sur des animaux morts. Et un jour, il a vu par terre un corbeau, un jeune corbeau mort, et ça l'a vraiment secoué, si on peut dire ça comme ça. Enfin, j'emploie des termes qui ne sont pas forcément très intello, mais bon, pour vous situer, parce que c'était un homme quand même, hein, c'est pas un pur esprit. Il a vu ce jeune corbeau mort, et il n'a pas pu résister au désir de le reproduire, donc il l'a pris, il l'a emmené dans son atelier, et il en a fait une gravure, quelque chose de magnifique. Enfin, on n'a pas de peau parce qu'on ne les voit pas. Si, on l'a vu en réalité, oui, la gravure. Ouais, c'est-à-dire qu'un jeune corbeau, il n'a pas encore ses rémiges, etc. Et c'est comme un gros duvet, quoi, qu'il a sur lui. Et il a commencé par ça. Puis après, il s'est mis à graver justement des oiseaux qui morts. Voilà, il en a fait un certain nombre. Avec, c'est toujours une beauté saisissante. D'ailleurs, il y avait ou mort ou empaillé, hein, parce qu'il avait, il a par exemple cet oiseau que tu avais vu et qui t'a incité à retourner, cette chouette ou ce hibou.
Ah oui.
Ouais. Qui doit être un hibou empaillé, quoi. Mort aussi, mais empaillé. Et qui est une beauté vraiment époustouflante, hein, le terme est un peu vieillot, pas d'énerie. Et qui vraiment, parce que la finesse, alors là par contre les plumes il sait les faire, hein, s'il sait pas faire les feuilles.
Non mais il a une précision dans tous ses dessins qui est impressionnante, c'est-à-dire que c'est un très bon graveur, mais c'est avant tout un dessinateur hors pair.
Oui, un dessinateur,
quoi.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et donc lui effectivement, il travaille donc sur ce motif et il dit que ce qu'on fait sur place c'est généralement ce qu'il y a de mieux. Donc il dit, c'est pour ça que je préfère graver directement sur la plaque. Quand les choses se passent bien, on est totalement absorbé dans ce qu'on fait. Un sentiment de bonheur nous envahit, le temps n'existe plus, on se sent complètement à son aise et heureux. Le travail d'après nature nous offre donc une récompense supplémentaire. Et nous, en tant qu'observateurs, on est récompensés parce qu'on est en immersion dans ces paysages. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cette exposition, c'est qu'à chaque fois, on rentre dans ce paysage, dans cette sérénité, enfin, que ce soit...
Ouais, le mot sérénité est bien tout à fait à sa place, là, oui.
Ouais, que ce soit des paysages composés seulement d'un arbre ou de plusieurs arbres ou de champs avec des arbres derrière, de plans d'eau. Il y a un paysage, il y a deux paysages de Pologne où on voit justement des petites barques sur un plan d'eau avec des arbres derrière. Enfin, il y a quelque chose qui nous transporte peut-être parce qu'en fait, on sent aussi, enfin, moi qui aime beaucoup la nature, on ressent tout ce que nous, on pourrait ressentir si on était justement dans ce paysage, quoi, avec.
Et je dois vous dire, chers camarades, auditrices, auditeurs, que ma camarade Piquet-Coup était complètement. Non, mais il fallait la voir sautiller. Elle était émerveillée, mais quand je dis émerveillée, il faut la voir, hein, parce que bon, elle avait jamais vu quelque chose qui la transporte à ce point-là. Hein.
Mais parce que je pense que c'est un mélange effectivement de l'admiration pour ce travail et de ce qu'il représente. Mmh. Et il y a aussi des carnets de croquis.
Oh.
Et ces carnets de croquis sont incroyables. Enfin, c'est pareil, une
à la plume. Mmh. Voilà. Certainement que c'est les plumes comme je les utilisais quand je faisais mon petit boulot d'écolier, voilà, des plumes à dessiner très très fines avec des porte-plumes très très fins. J'en ai toujours dans mon matériel, mais je ne les ai pas utilisées depuis très longtemps. Et là, ça donne envie de leur faire parce que vous ne pouvez pas imaginer la finesse, l'exactitude, la beauté de ces carnets de croquis. Puis il écrit aussi, il a une écriture très jolie, mais toute petite, il écrit et il décrit. Il décrit ce qu'il a dessiné, tel oiseau, ben j'ai manché, ben, il fait tout un roman sur son dessin, mais ces carnets de croquis, c'est quelque chose d'extraordinaire du point de vue de la calligraphie et du dessin. C'est vraiment des trésors, je ne sais pas, mais s'il y en a qui peuvent en posséder, ou je ne sais pas si c'est simplement dans les musées ou chez lui, mais. C'est aussi magnifique que ces gravures, on croirait presque des gravures même, tellement c'est bien foutu à la plume. Au début, je pensais que c'était au crayon, mais non. Et ma camarade, qui est sérieuse comme moi quand elle regarde les choses, qui dit non, c'est à la plume.
Bon. Ouais, c'est à la plume. Alors, c'est vrai que ce qu'on a vu, il y a des séries, donc d'arbres, il y a des séries de paysages, il y a aussi des fleurs, ces fleurs sont absolument magnifiques aussi. Il y a des, par exemple, des pommes de pin, il va y avoir une partie un peu mollusque, crustacée, ouais, coquille Saint-Jacques. Ouais. Voilà, il y a vraiment.
Il y a des batraciens, il y a plein de choses, plein d'animaux. De l'eau, du ciel, de la terre, voilà.
Et... Ah, des oiseaux, des chauves-souris, enfin, et à chaque fois, il y a autant de poésie, quel que soit le sujet. C'est-à-dire que là, il y a une pomme de pin, rien qu'une pomme de pin, c'est anodin, mais cette pomme de pin sur la tranche transversale, là, sur le côté, donc elle n'est pas posée, justement, comme on pourrait imaginer représenter une pomme de pin, avec la partie à droite qui forcément est plus concentrée, puis après, c'est qui s'ouvre petit à petit. Ben moi, ça me transporte.
Oui, non, mais il y a un commentateur qui dit qu'une pomme de pin, bon, c'est une, presque une formule mathématique très précise, etc. Oui, non, mais tout est... Non, non, on se sent quand même un petit peu frustre quand on regarde, quand on rencontre ce travail, cette intelligence, cette culture, cette sensibilité. C'est vraiment, voilà, c'est un genre de Van Gogh de la gravure, par la densité du travail, l'émotion qui se dégage de ce travail, contrairement à Van Gogh qui est tout en violence de picturale, de coups de pinceau, de coups de brosse, là, c'est avec une petite pointe d'acier, on appelle ça les pointes sèches, voilà, Même si ce dessin est presque une imagination de dessin, quelque chose de fugace, comme une fumée, c'est pas le paf, 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 hein, le gros trait haché et tout, non. Eh ben, ça a une force considérable qui n'a rien à voir avec la finesse de l'exécution.
Ouais, il y a vraiment. Alors, il y a peu de figuratif. L'exposition commence avec deux de ses autoportraits dans les années 70 à peu près.
De sa femme.
Et il y a aussi deux portraits de sa femme qui était grecque. D'ailleurs, j'aime beaucoup les gravures qu'il y a aussi de sa femme, une petite brune avec les cheveux courts. Il y a quelque chose de très contrasté. C'est moi, j'ai vraiment bien aimé ces portraits. Il y en a un là, justement. Il y a une chouette qui vole, qui est près de son visage. Et elle le regarde et j'aime bien la façon qu'il a de la représenter. C'est un dessin qui est un petit peu naïf. Justement, là, pour le coup, qui n'est pas dans le détail des traits du visage et tout, mais J'aime bien. Voilà, avec des grands yeux noirs.
C'est pas ses travaux favoris, quoi. Le portrait, ça le passionne pas plus que ça.
Non. Et on a vu sur ce catalogue raisonné. Alors je mettrai le lien, mais parce que même si on comprend pas si on traduit pas le néerlandais, on peut au moins aller voir. Il y a une série catalogue où là, il y a tout son travail année par année, enfin tous les deux ans. Donc c'est vraiment hyper riche. Et on a vu qu'il avait fait un peu de taille d'épargne aussi au départ.
Oui, c'est assez curieux ça, parce que bon, il est tellement loin dans son travail, si on peut dire, courant, de la taille d'épargne, que quand ma camarade m'a dit « Mais il a fait de la taille d'épargne, j'ai vu qu'il a fait de la taille d'épargne », là j'étais un petit peu, époustouflé.
Ouais, ouais, là il y a deux gravures, effectivement, qui représentent deux personnes qui sont près d'une maison, dans un paysage aussi, et avec un qui tient un oiseau, comme si c'était ils avaient été chassés, le premier a deux oiseaux dans sa main, et là on reconnaît les traits, bah oui, forcément plus grossiers de la taille d'épargne. Tout à fait. Voilà. Et le deuxième, c'est pareil, c'est un homme qui vient qui prend deux oiseaux. Alors, est-ce que c'est des voleurs, je ne sais pas, je pense que c'est un peu ça, ou des chasseurs, enfin, qui ont été trouver des oiseaux. Dans les années 50, c'est dans les années 60 en fait, donc il a 20 ans.
Et on vous parle souvent d'un graveur bruxellois, là, lui qui fait plutôt une gravure, mais c'est aussi des eaux fortes. La même technique de gravure qu'emploie Dunker, mais lui, c'est plutôt dans la fantasmagorie propre, si vous voulez, assez aux gens du Nord, quoi, aux Batav et compagnie, puis aux Belges aussi, qui sont flamands, quoi. Des hivers un peu fantastiques, mais la qualité du trait de ce graveur belge, de Bruxelles, de ce graveur bruxellois, est semblable à celle de Dunker, mais pas pour les arbres, pas pour la nature, mais pour les personnages, parce qu'il fait des choses assez fantastiques, justement, en gravure.
Ouais. Alors déjà, c'est vrai qu'on avait quand même noté que souvent les graveurs ne peuvent pas tricher. Enfin, on ne peut pas être mauvais et graver, c'est pas possible. Non, souvent, quand on voit à Saint-Sulpice, il y a quand même une précision, un sérieux dans le travail. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même quelque chose là qui n'est pas du foutage de gueule, quoi.
Mais non, mais parce que d'abord, la pointe sèche ou la taille douce, parce que la taille douce aussi, c'est une discipline très très sérieuse. Mon camarade Jean-François était un taille-doucier, si on peut dire ça comme ça. C'est un travail aussi précis que l'eau forte, mais avec un burin, avec une pointe sèche, voilà. Donc on peut pas le dissocier vraiment, parce que ce sont des techniques qui donnent des rendus très différents, mais qui sont aussi précis, aussi exigeants. Qui sont on peut pas, comme dit Macaron, on peut pas tricher, quoi. C'est pas possible. C'est un trait mauvais, il est mauvais, voilà.
Ouais, donc on peut que vous encourager à aller découvrir cette exposition, hein, qui est au sous-sol de l'Institut de la Fondation Custodia. La semaine dernière, on vous avait parlé de peindre sur le motif. Moi, ça me paraît compliqué de faire les deux expositions à la fois, parce que ces deux expositions quand même sont très riches,
très prenantes. Oui.
Donc y retourner, peut-être y aller en deux fois, ou alors sortir, aller manger un truc et puis revenir faire la deuxième exposition, je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux sont vraiment des grands moments de bonheur, quoi.
Oui, tout à fait. On remercie la Fondation Custodia de nous permettre d'accéder à cette beauté, quoi, qu'on ne côtoie pas. Parce que les grands musées, comme on y en a à Paris, là, Pompidou, où on ne va jamais... Orsay, on va de moins en moins, le Louvre, on n'en parle même pas, tous ces grands machins-là, on peut pas, si vous voulez, approcher l'art d'une manière vraiment, sérieuse, c'est un peu con de dire ça, mais enfin voilà, on peut pas s'approprier, ce qu'on regarde, on peut pas entrer dans l'intimité de ce qu'on regarde, tandis que dans une petite fondation comme Custodia, c'est à une taille humaine, et puis de toute façon ils font un travail magnifique. Là on a deux catalogues de l'exposition des 150 peintures à l'huile, qu'on est allé voir avant la gravure, et je veux dire que c'est... Il n'y a aucun musée dans le monde, enfin je ne veux pas exagérer, j'en sais rien. Non, enfin, n'y a que là qu'on reçoit des catalogues comme ça, voilà, qui sont très, très beaux, très détaillés, très cuits. Voilà, tout est dedans.
Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre d'Ile-Vent, d'Ile-Vent. Les hommes ont bien essayé, maintes fois de le couper, le couper. Mais il a levé les bras en criant, non, pas le droit, pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux, à genoux. Racines aux pieds, les pieds dans la terre,
un arbre debout face à l'univers.
Racines aux pieds, entre ciel et terre,
un arbre de vie attend et espère.
Il respire et il murmure, il se couvre de verdure, de verdure. Il s'étire et il grandit, donne des fleurs et des fruits, et des fruits. Il est l'ombre en plein soleil, la fraîcheur dans le désert, le désert. Il a un collier d'écorce, nourri de sève et de force, et de force. Racines aux pieds, les pieds dans la terre,
un arbre debout face à l'univers.
Racines aux pieds, entre ciel et terre,
un arbre de vie attend et espère.
Racines aux pieds,
les pieds dans la terre,
un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds,
entre ciel et terre,
un arbre de vie attend et espère. Les enfants lui font la cour, font la ronde tout autour, tout autour. Les oiseaux cachent leur nid pour protéger leurs petits, leurs petits. La pluie sème quelques grains, les caresses du matin. Et la nuit bleue s'y repose avec la lune toute rose, toute rose. Racines aux pieds,
les pieds dans la terre,
un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds,
entre ciel et terre,
un arbre de vie attend et espère. Racines aux pieds,
les pieds dans la terre,
un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds,
entre ciel et terre,
un arbre de vie attend et espère. Racines aux pieds,
les pieds dans la terre,
un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds,
entre ciel et terre,
un arbre de vie attend et espère.
C'était Chanson par un arbre, Dominique Dimet.
Ah, oh. Et tout de suite, toujours sur Radio Soupan, toujours à l'émission Racaille, on va vous causer brièvement, mais vous en causez quand même, de l'exposition du don de Baselitz au musée d'art moderne, de 6 peintures, parce qu'on a dû se payer d'aller au musée d'art moderne avant d'aller à la Fondation Custodia, à Pince, tout ça, bien entendu, avec mes camarades, hein. C'est sacro-saint, c'est les pieds ou rien. Bon, et donc, on va au musée d'art moderne, que j'adore par ailleurs, parce qu'il y a, c'est vraiment un très très beau musée, avec un fond magnifique. Bon, bref, on va. Enfin, en tout cas, ma camarade, elle a eu l'intelligence d'aller voir quelques peintures du fond, mais moi non.
Ouais, l'idée au départ, c'était effectivement, moi, cette donation Baselitz me faisait un petit peu envie, parce que c'était six œuvres qui correspondent à 6 périodes de sa vie, de son boulot. Et je me dis, ça va faire, comme ça, on fait une émission avec Charles Donquer, on fait les deux sur la même émission. Bon.
Et là, on est à des années-lumière de quelqu'un comme Donquer. Là, c'est le foutage de gueule intégral. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que, croyez, j'aime beaucoup Baselitz. J'aime ses sculptures, j'aime en général ses peintures, mais là, ce qu'il a refourrié au milieu d'art moderne, moi j'aurais été le récipiendaire de ces merdes, je les aurais renvoyés à Baselitz tout de suite en lui disant que bon, c'est gentil, mais il fallait pas les prendre pour des cons, quoi, voilà. Parce que c'est des barbouillages invraisemblables, alors avec ce truc complètement absurde de mettre les têtes en bas de ses peintures, etc., ça fait cucu la praline, on se croit, non, vraiment. ça pouvait étonner les gens dans les années 80 ou 70, ou je sais pas, faut compter ce que ça a été fabriqué, c'est gros caca, mais enfin bon, mais c'est nul, de chez nul, archi nul. Sauf une silhouette d'arbre en noir, avec évidemment la tête à l'envers aussi, ça doit être il doit avoir un grain ce mec, voilà. Non, vraiment, pour moi, c'est une déception énorme. Alors, j'aimerais bien que des camarades qui nous écoutent aillent voir ça et qui nous donnent leur avis. Parce que pour moi, en tout cas, je dois vous dire... Alors, ma camarade, il faut toujours qu'elle sauve le coup. Elle a vu... Alors, une maternité, c'est ça? Une maternité de aussi, que t'aimais bien.
De Bassitte?
Oui.
Non, madame, ma mère, madame Cézanne.
C'est oui, ça ma mère, madame Cézanne.
En plus de
si Cézanne voyait ça, il tomberait de mort.
L'arme, j'aimais bien aussi. Voilà. Ah, oui, non, les non, autres, c'est vrai qu'on... Les autres, c'était pas très très convaincant. J'étais quand même déçue. C'est pour ça que le temps que t'ailles aux toilettes, je suis allée faire un tour dans les collections permanentes à proximité et j'ai pu voir quand même de Bernard Buffet. Ça, c'était sympa. Un peintre qu'on avait vu à Nancy. Enfin voilà. Du coup,
non,
ça.
Non, puis aussi ce peintre minimaliste là, tu sais.
Il y avait Fautrier, j'ai vu. Voilà. Ouais. Donc comme il y a eu un nouvel accrochage au musée d'art moderne, je pense que, d'ailleurs on pourrait simplement refaire toutes les collections permanentes parce que c'est quand même une histoire de cette part de l'art moderne.
Bah, c'est là qu'on a vu pour la première fois les Fautrier, etc. On a vu vraiment des choses étonnantes au musée d'art moderne.
Et il n'y a personne, donc c'est vraiment...
Il n'y a personne. Et le personnel est d'une gentillesse confondante.
Voilà, donc effectivement, ça m'a permis de revoir quelques... Bah, de voir ces deux Bernard Buffet. La première fois qu'on était allé au musée d'art moderne, il y a presque une dizaine d'années, il y avait des grands formats de Bernard Buffet. Là, bon, c'est deux formats plus petits, un autoportrait et une nature morte avec un revolver. Mais ça fait toujours plaisir, quoi. Donc ça, faut quand même aller dans ce musée d'art moderne, même sans faire une exposition temporaire.
Oui,
de même que quand avant d'arriver à cette donation, bon toi t'aimes peut-être moins, mais il y avait des grands vialas, il y avait 2-3 Simon de taille. Moi j'aime bien le travail de Simon de taille, je trouve que c'est l'occasion de se mettre dans un bain artistique, de regarder un peu le travail de chacun. Ça sert à ça d'ailleurs les collections permanentes.
Tout à fait.
Donc on n'avait pas raté notre
non,
voyage.
Non, c'était l'occasion de faire une marche de Bagdad.
Un petit oiseau bleu sur une toile blanche au fond d'un atelier s'ennuyait le dimanche entre le vieux qui prenait la poussière et le poêle qui en fumait, mais chauffait pas l'hiver. À partir, respirer, s'envoler, prendre l'air, il quitta l'atelier, cœur battant, plume légère. Un petit oiseau bleu, dans un drôle de décor, écarquillait les yeux, près d'un singe à ressort. Valse des numéros, chant du marteau d'ivoire.
Hop, un casque à pompons, toc, un long d'arrosoir.
2000, 3000, 5000.
Allons, un petit effort. 8000, 10000, 12000. 15000 au fond, madame, encore.
Un petit oiseau bleu sur une toile blanche s'étiolait peu à peu au fond d'un coffre étanche entre un vieux péchinet aux allures de croque-mort et des Napoléons venus là sans passeport. À partir, respirer, s'envoler, prendre l'air, à mort les financiers et vive l'art populaire. Un petit oiseau bleu derrière un cadre d'or, habillé de velours près d'un gardien qui dort.
Catalogue, étiquette, essence de la visite,
salle fermée pour les fêtes et faux
interdite. Ah là là, l'atelier, la bonne couche de poussière, le vieux poêle d'avant-hier qui fumait sans chauffer. Ah, l'odeur de peinture qui vous monte à la tête lorsqu'on rêve d'azur, quand le cœur est en fête.
Petit oiseau bleu, Gilbert Lafaille.
Et voilà, ainsi se termine cette émission consacrée à Charles Doncker. J'espère que cela vous a plu. Et s'il vous arrive de prendre la route par la campagne ces temps-ci, vous rencontrerez peut-être quelques images de Charles cachées dans le paysage. Un grand merci donc à Piquecou et à Robert qui nous ont promenés dans la vie, l'œuvre et l'exposition consacrée à l'artiste. Une expo intitulée « Charles Doncker, d'abord regardez » qui est encore visible à la Fondation Custodia à Paris et ce jusqu'au 3 avril prochain. Pour les ceux que ça tente, qui ont le temps et de quoi rouler jusque là-haut. Pour ceux aussi qui jusque-là ne pouvaient fréquenter ce genre d'établissement faute de passe sanitaire, et bien désormais, ce sera aussi possible pour eux. Alléluia ! Sinon, vous pourrez aussi accéder aux œuvres de cet artiste depuis chez vous, et ce grâce à la technologie moderne qui vous permet de voir des images à distance depuis un ordinateur. J'ai trouvé un lien sur lequel les images sont bien visibles et c'est un régal car on voit les gravures mais également les aquarelles qui sont vraiment superbes. Doncker est aussi un très grand coloriste. Donc le site que j'ai trouvé c'est un blog qui s'appelle blog.kermorvan.fr. Kermorvan, K-E-R-M-O-R-V-A-N. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'une actualité beaucoup plus locale cette fois-ci, puisque ça se passe à Rochefort, les 19 et 20 mars prochains. C'est une initiative complètement autonome. Donc ce sont des artistes qui se sont organisés entre eux il y a un an, sans l'aide de personne. Hein. Ça, c'est très important. Et qui vont ouvrir les portes de leurs ateliers au public pour montrer tout simplement leur travail. Donc on peut voir en vrai le travail et ça c'est pas mal en se promenant dans la ville. Donc vous aurez des plasticiens et des artisans d'art dans beaucoup de domaines. Vous pourrez voir de la peinture, de la sculpture, de la photo, du dessin, des illustrations, de la gravure et de la typographie, mais aussi le travail du textile, des impressions et des costumes. La modiste qui présente des chapeaux et malheureusement ne pourra pas présenter son travail, voilà, je le précise. Vous aurez aussi la possibilité de voir de la reliure, de la restauration de tableaux, des bijoux, des marionnettes et de la céramique et même des installations poétiques dans des lieux parfois très, très originaux puisque certains artistes se sont regroupés pour présenter leur travail ensemble, donc c'est intéressant. Pour déambuler, il vous faudra attraper un flyer quelque part, alors soit au syndicat d'initiative ou chez un commerçant, voilà. Pour ceux qui ont Facebook, vous tapez l'intitulé Porte ouverte artiste Rochefort et normalement, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous balader dans la ville. C'est donc la deuxième édition cette année. On vous espère très nombreux. Et voilà, puisque c'est moi qui tiens le micro, j'en profite. Si vous voulez voir le travail de celle qui prétend vous parler d'art à longueur de mercredi, venez donc faire un tour aux 3 rue Champlain, c'est le numéro 5 sur le plan, et je vous accueillerai avec grand plaisir pour vous montrer mes petites gravures. Voilà, c'est donc le week-end qui vient, c'est gratuit, ça se passe de 11h à 18h, et c'est surtout sans passe. À très bientôt.
Malgré l'écran, cieux du néant, c'est pour mieux nous manger, enfants, et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc. Faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut partir, qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'y peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache ratée, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.
Faut vivre.